Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue. La Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Bonsoir, Nathalie Barge avec vous pour ce premier bulletin de la soirée. On commence par les quarts de finale de la Coupe du Monde de football avec notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour. Alors, l'Argentine s'est qualifiée ce samedi à Brasilia pour sa première demi-finale de Coupe du Monde depuis 1990 en s'imposant 1-0 face à la Belgique.
Et oui, l'Argentine qui a validé ce samedi son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde en battant à Brasilia 1-0 la Belgique. Sur un but de Gonzalo Higuain qui était muet depuis 6 matchs. L'Argentine s'est donc qualifiée et c'est évidemment dans la logique puisque les Argentins étaient favoris sur ce match. Il va falloir attendre maintenant pour savoir quel sera le prochain adversaire de l'Albiceleste. Il s'agira des Pays-Bas ou du Costa Rica qui s'affrontent tout à l'heure dans le dernier quart de finale de cette Coupe du Monde. Nicolas Pineau au Brésil pour la Voix de l'Amérique.
Merci Nicolas. En Somalie, au moins 5 personnes, dont 2 soldats, ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée près du Parlement à Mogadiscio. Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attaque dans la capitale somalienne et a dit qu'il y en aura encore d'autres. Le Parlement était en session au moment de l'explosion. Les autorités disent que le véhicule a explosé quand il a été arrêté par des soldats à un barrage devant l'entrée au Parlement. Un tribunal égyptien a condamné le chef des frères musulmans, Mohamed Badi, et 36 autres islamistes à la prison à vie. Mohamed Badi, reconnu coupable de participation à des manifestations meurtrières, avait été condamné à la peine de mort pour 2 autres cas dans la répression de l'opposition islamiste après la destitution de Mohamed Morsi par l'armée l'an dernier. Le tribunal a également confirmé les condamnations à mort pour 10 autres partisans de la confrérie. Les frères musulmans ont été désignés comme groupe terroriste. De nombreux membres ont été emprisonnés, y compris l'ancien président égyptien. Les troupes ukrainiennes ont repris le bastion rebelle de Sloviansk dans l'est du pays. Après l'offensive, le président Petro Poroshenko a ordonné aux forces armées de hisser le drapeau ukrainien sur la ville. Les autorités et des habitants disent que les rebelles pro-russes ont évacué la ville après avoir essuyé des tirs de mortier des forces gouvernementales. Les séparatistes contrôlaient Sloviansk depuis début avril. Les rebelles semblaient se replier sur la ville voisine de Kramatorsk, mais la presse sur place a indiqué que beaucoup d'entre eux, plus tard, quittaient également cette dernière localité. Proche-Orient, selon le procureur général palestinien, l'autopsie de l'adolescent tué cette semaine montre qu'il a été brûlé à mort. Le corps de Mohamed Abou Koudaïr a été retrouvé dans une forêt de Jérusalem mercredi, environ une heure après avoir été forcé d'entrer dans une voiture par les ravisseurs. Le procureur a déclaré que le jeune palestinien a subi des brûlures sur 90% de son corps. La police israélienne n'a pas encore déterminé qui sont les ravisseurs et d'y chercher à savoir si le meurtre était en représailles à l'enlèvement et l'assassinat de 3 adolescents israéliens trouvés enterrés plus tôt dans la semaine. En Afghanistan, près de 200 camions citernes parqués en périphérie de Kaboul ont été incendiés, ont annoncé les autorités. Les talibans ont revendiqué la responsabilité de l'attaque. Ils ont intensifié leurs attaques récemment, alors que les forces de l'OTAN doivent achever leur retrait du pays d'ici la fin de l'année. Si le nouveau président afghan signe un accord de sécurité avec Washington, environ 10 000 militaires américains devraient alors rester dans le pays.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU. Washington, la voix de l'Amérique, Amigro Didier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, Médecins sans frontières et l'Organisation mondiale de la santé tirent la sonnette d'alarme face à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest.
Ce qui se passe, c'est que nous entrons maintenant dans le quatrième mois depuis le début de cette flambée d'Ebola dans trois pays d'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, tous les jours, nous enregistrons de nouveaux cas et de nouveaux décès.
On entendra Fadela Chaïb de l'OMS, fin de la semaine mondiale de la forêt.
Il faut effectivement arriver à mettre en place un cadre, qu'on peut appeler un cadre politique, qui permet l'émergence des conditions nécessaires donc, pour favoriser les populations à mieux tirer parti des avantages socio-économiques des forêts.
Jean-Claude Nguingiri, chargé des forêts au bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, reviendra sur la réunion du comité des forêts de l'agence onusienne. Et une équipe internationale de chercheurs est parvenue à cerner comment des globules rouges peuvent être créés à partir de cellules souches et selon les besoins. Épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Après Médecins sans frontières, c'est au tour de l'Organisation mondiale de la santé de préconiser une mobilisation des pays de la sous-région en faveur d'une réponse intégrée et plus musclée. À cette fin, l'OMS a convoqué un sommet régional au Ghana début juillet. Car en dépit des efforts des gouvernements et des autorités sanitaires locales, en coordination avec l'OMS et MSF, le nombre de cas et de décès notifiés imputables à la maladie à virus Ebola augmente chaque jour. L'épidémie actuelle d'Ebola est par conséquent la plus grave en termes de nombre de cas et de décès notifiés et par sa répartition géographique, explique l'OMS dans un communiqué. On écoute sa porte-parole, Fadela Chaïb.
Ce qui se passe, c'est que nous entrons maintenant dans le quatrième mois depuis le début de cette flambée d'Ebola dans trois pays d'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, tous les jours, nous enregistrons de nouveaux cas et de nouveaux décès. Comme vous savez, Ebola est une maladie extrêmement sérieuse, contagieuse, qui n'a pas de vaccin ni de traitement. Donc, les mesures de prévention sont connues, mais peut-être que ces mesures ne sont pas prise comme il faut.
Donc l'OMS parle aujourd'hui d'une crise sous-régionale.
Nous pensons que si nous n'arrivons pas à endiguer les cas d'Ebola dans les trois pays que j'ai cités, les frontières sont assez poreuses dans cette partie du monde et nous devons absolument arrêter la propagation d'Ebola, sinon ça risque de se propager dans d'autres pays de la région. C'est pour ça que l'OMS appelle à une réunion de deux jours à Accra, au Ghana, du 2 au 3 juillet, afin de voir avec les pays avoisinant les trois pays touchés, le Libéria, le Sierra Leone et la Guinée, quelles sont les mesures à prendre au niveau de tous ces pays, avoir une stratégie commune, parce que comme vous le savez, les virus ne connaissent pas de frontières.
Madame Fadela Chaïb, porte-parole de l'OMS, elle était jointe à Genève. Pour l'ONG Médecins sans frontières, la recrudescence de cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest est telle qu'on peut dire que l'épidémie est hors de contrôle. Tout comme l'OMS, MSF estime que la maladie risque de se propager à d'autres zones. Il faut agir, affirme MSF, qui appelle à une mobilisation face à la fièvre hémorragique. Le point avec le docteur Marc Poncin, coordinateur national urgence Ebola du bureau de MSF en Guinée.
La situation est plus alarmante qu'on ne pensait. Et qu'il faut augmenter la mobilisation de tous les acteurs qui peuvent aider à juguler l'épidémie. Donc aujourd'hui, une partie de la population n'adhère pas aux mesures de contrôle. C'est ce qui fait que aujourd'hui il y a continuation de la propagation de l'épidémie. Une partie des gens ne croient pas à Ebola. Les malades se cachent, les gens ne viennent pas se faire soigner au centre de traitement et la propagation continue. Aujourd'hui, c'est par la sensibilisation qu'on peut changer les choses. C'est la sensibilisation de la population. Mais cette sensibilisation, elle doit être faite par toutes les couches de la société civile, par tous les leaders d'opinion, qu'ils soient politiques, religieux, administratifs. Donc il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation générale au niveau de la société et de l'État pour convaincre les personnes récalcitrantes de venir se faire soigner. C'est à travers cette mobilisation qu'on peut y arriver. Un message qui est très important à porter en permanence, c'est qu'on peut guérir d'Ebola à condition de venir tôt dans les structures de santé. Et pour exemple, nous avons eu environ 60 patients qui sont sortis guéris de nos structures de santé. Donc on peut guérir de Ebola, mais il faut venir se faire soigner très tôt dans les structures de santé et ne pas se cacher.
Est-ce que vous avez le sentiment que la peur joue dans cette hésitation de certains à venir se faire soigner?
Absolument, la peur joue un très grand rôle. Donc Ebola crée des réactions tout à fait irrationnelles et la peur joue un très grand rôle dans ces réactions irrationnelles. Il faut convaincre les gens par tous les moyens que Ebola est une maladie comme une autre, que le seul moyen de guérir de Ebola, c'est de venir dans les centres de traitement spécialisés. Et c'est la réponse au problème de Ebola. C'est une maladie dont on peut guérir à condition de venir se faire soigner. Il faut avoir confiance dans les structures de santé et les organisations qui répondent à la problématique de Ebola. C'est le seul moyen d'y arriver et qu'il faut que toutes les couches de la population se mobilisent afin d'endiguer cette épidémie qui est vraiment terrible et qui fait porter un très lourd tribut à la population ici.
Le virus à fièvre hémorragique Ebola est hautement contagieux. MSF le rappelle depuis le début. Alors, si jamais des gens entrent en contact avec un malade, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les précautions à suivre?
Les gens qui sont atteints d'Ebola sont contagieux à partir du moment où ils développent des symptômes et qu'ils sont malades. Avant de développer des symptômes, toute personne qui était en contact avec un malade n'est pas contagieux. Donc, ce qui est important, c'est à partir du moment où on a été en contact avec un malade, c'est se faire connaître des structures de santé de façon à être suivi quotidiennement pour voir si une fièvre apparaît. Si une fièvre apparaît, on fera un dépistage de Ebola pour s'assurer si le malade a Ebola ou une autre maladie quelconque, comme la malaria qui est endémique sur la zone. L'autre aspect qui est extrêmement important, c'est en cas de funérailles, il ne faut absolument pas toucher le corps, parce que le corps d'une personne décédée de Ebola est hautement contagieux. Et donc toutes les personnes qui ont l'habitude de toucher le corps, de laver, de préparer le corps pour l'enterrement, vont avoir une très grande chance d'être contaminés. Donc il faut contacter les autorités afin qu'on puisse mettre en place un enterrement sécurisé. Donc cela, c'est quelque chose qui est fait par Médecins Sans Frontières ou par la Croix-Rouge. Et c'est extrêmement important car l'enterrement est un moment qui peut créer une amplification de l'épidémie. Le troisième aspect qui est très important, c'est dans les structures de santé. Il y a un risque au début de l'épidémie, quand la maladie n'est pas connue, que les soignants soient contaminés. Mais aujourd'hui, le risque, je dirais, est faible en Guinée, puisque ça fait plus de 3 mois que l'épidémie perdure. Donc la population médicale est quand même sensibilisée à l'existence de la maladie. Elle essaie de se protéger pour ne pas être contaminée.
On écoutait le docteur Marc Poncin, coordinateur national de MSF en Guinée. Washington, la voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous. Vous suivez le magazine hebdomadaire Carrefour Science et Santé. Les politiques et programmes nationaux doivent mettre l'accent sur le potentiel de réduction de la pauvreté et de développement rural des forêts. C'est ce qu'a déclaré la FAO cette semaine à l'occasion de la 22e session de son comité des forêts. une part importante de la population mondiale dépend des produits forestiers pour satisfaire ses besoins fondamentaux en énergie, en logement et certains aspects de soins de santé, a-t-elle souligné. Pour plus de précision, on écoute M. Jean-Claude Nguyen-Guéry, chargé des forêts au bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale.
Il faut effectivement arriver à mettre en place un cadre, qu'on peut appeler un cadre politique, qui permet l'émergence des conditions nécessaires donc, pour favoriser les populations à mieux tirer parti des avantages socio-économiques des forêts. Ces avantages sont multiples et varient selon les types de forêts. En d'autres termes, la forêt, donc si je viens donc sur ce qui me concerne, je travaille en Afrique centrale. En Afrique centrale, nous avons une forêt tropicale. On a toujours tendance à penser que les bénéfices socio-économiques ou les avantages tirés de la forêt se limitent au bois, à la production des grumes, à la transformation de ces grumes et à la vente, la commercialisation de ces grumes qui contribuent à l'économie nationale. C'est vrai. Mais au-delà des grumes, du bois, la forêt apporte d'autres avantages socio-économiques sur plusieurs plans, notamment au plan d'abord des produits qu'on peut extraire de la forêt, mais aussi des services que la forêt peut rendre à d'autres secteurs, notamment pour le développement de l'agriculture en général. Alors, parmi les avantages qu'on peut obtenir de la forêt, on peut citer aujourd'hui, par exemple, pour ces régions d'Afrique centrale, où nous avons environ 50% de la population dépend en partie des produits forestiers non ligneux pour leurs moyens de subsistance.
Est-ce que vous parlez là du gibier ou encore de la cueillette des fruits?
Effectivement, les produits forestiers non ligneux regroupent un ensemble de produits qui sont d'origine végétale et d'origine animale. Il s'agit des fruits récoltés dans la forêt, il s'agit des feuilles qui sont utilisées comme des légumes ou pour les services, il s'agit des racines, des tubercules et bien d'autres produits d'origine végétale et qui contribuent énormément non seulement pour garantir la sécurité alimentaire des populations, mais permet aussi aux populations de récolter ces produits, de les vendre et de se faire un revenu qui leur permet de répondre aux besoins essentiels. Par les revenus générés, ils peuvent acquérir d'autres produits. Mais on parle aussi donc des produits d'origine animale comme les insectes. Les insectes sont très consommés dans certaines régions et sont une source essentielle de protéines animales. On parle aussi de la viande de brousse ou encore de la viande de chasse. Et donc dans certaines régions, il y a des études qui ont montré que si l'effort de chasse est maîtrisé et qu'il y a un prélèvement sur des bases durables, la faune peut contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutritionnelle des populations vivant dans les zones forestières.
Et puis les forêts sont également source de médicaments.
Effectivement, quand on parle donc de ces avantages socio-économiques des produits forestiers non ligneux, bon là je parlais plus sur l'angle de la sécurité alimentaire, mais c'est aussi source de médicaments comme vous le dites. Parce que en milieu rural, beaucoup de populations pour se soigner font recours à la forêt. Donc la forêt, comme certains le disent assez souvent dans certains villages d'Afrique centrale, sert à la fois de garde-manger, mais sert aussi à la fois de pharmacie.
C'est pour toutes ces raisons, en fait, que la FAO dit qu'il faut absolument placer les individus au cœur des forêts.
Aujourd'hui, je crois qu'il faut remettre un peu ces approches qu'on a défendues pendant longtemps, qui consistaient à penser qu'on devait mettre les forêts sous cloche, si on veut les conserver. Il est vrai qu'on peut toujours avoir des zones de conservation, ce qu'on appelle les parcs nationaux, mais en dehors des parcs nationaux, on peut réellement procéder par une approche d'utilisation et de gestion durable des ressources naturelles pour arriver à permettre donc à la forêt à continuer à jouer ce rôle de fournisseur de produits aux populations qui dépendent de ces forêts pour leur subsistance, sans pour autant détruire le capital. Et surtout que dans les approches qu'on utilise aujourd'hui, une attention particulière est accordée à la déforestation. Donc le challenge aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un cadre politique, légal, qui permet aux populations de tirer des bénéfices de ces forêts pour leur subsistance, mais sans pour autant aller vers une déforestation exagérée. Et dans cette perspective, l'une des questions importantes qui a été débattue est une nouvelle initiative de la FAO sur zéro déforestation illégale. Donc, on voit très bien le lien entre l'utilisation des ressources naturelles pour la subsistance des populations et la déforestation. Donc, si on arrive à mettre en place un cadre politique, légal, clair pour tous, auquel les usagers participent à l'élaboration, il est sûr que les usagers vont l'appliquer et qu'en passant donc par la loi, on peut agir directement par une bonne application des règles, on peut agir directement sur le taux de déforestation.
Jean-Claude Nguingiri, chargé des forêts au bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, il était joint à Rome. Camille Grodidi avec vous pour Carrefour Science et Santé, un programme de la Voix de l'Amérique. Ici, Washington, de nombreuses situations médicales nécessitent un apport en globules rouges, éléments du sang, qu'il s'agisse des anémies, des accidents de la route, des chirurgies ou encore des chimiothérapies. Mais voilà, la pénurie de sang et de globules rouges est réelle, d'où l'intérêt présenté par les travaux d'une équipe internationale de chercheurs qui est parvenue à cerner comment des globules rouges peuvent être créés à partir de cellules souches et selon les besoins. Naomi Taylor, directrice de recherche INSERM, et son équipe à l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier en France ont montré que deux substances, le glucose et la glutamine, dictent le chemin pour qu'une cellule souche sanguine devienne un globule rouge ou au contraire donne d'autres types de cellules sanguines. Elle revient ici sur ses travaux dont les résultats ont été publiés dans la revue Cell Stem Cell.
Notre travail était d'essayer de comprendre les mécanismes, comment une cellule souche peut devenir un globule rouge dans une manière plus ou moins importante.
Quelle a été votre principale découverte?
En fait, jusqu'à là, il y avait une découverte qui a fait il y a beaucoup d'années maintenant, qui est une molécule qui est produite par le corps humain, qui est l'érythropoïétine, ou HIPO, est importante pour les productions, pour les synthèses de globules rouges et peut même augmenter les productions de globules rouges. Une autre découverte était de montrer qu'en fait, c'est pas les HIPO qui travaillent seuls, c'est le contexte métabolique de cette cellule qui va permettre ou pas de devenir un globule rouge. Donc, le métabolisme va réguler cette différenciation ou le développement de globules rouges.
Vous avez montré que deux substances, le glucose et la glutamine, dictent en fait le chemin pour qu'une cellule souche sanguine devienne un globule rouge ou bien alors d'autres types de cellules sanguines.
Oui, donc en fait, nous on a montré que c'est en fait c'est les glutamines en particulier qui est responsable pour faire une globule rouge. Si on n'a que de glucose, une cellule souche ne peut pas venir un globule rouge. Donc c'est vraiment le glutamine qui est nécessaire. Mais la principale importance pour le métabolisme d'une cellule qui va venir un globule rouge, c'est le glutamine. Et si on n'a pas de glutamine, les cellules vont devenir un autre type de cellule. On parle de cellule souche hématopoïétique, ça veut dire que c'est une cellule qui peut faire des plaquettes, des globules blancs et les globules rouges. Et en fait, si cette cellule va pas avoir de glutamine ou va pas avoir un métabolisme de glutamine, la capacité d'utiliser la glutamine, il va devenir une des types de cellules blancs.
Quelle va être la prochaine étape de vos travaux?
En fait, la chose qu'on a compris, c'est que les rentrées de glutamine et l'utilisation de glutamine sont des choses primordiales pour venir un globule rouge et que ça passe par certains mécanismes de l'utilisation de glutamine. Mieux un globule rouge ou pour éviter les productions de globules rouges, par exemple pour des patients qui ont trop de globules rouges. Et après, dans un contexte d'anémie ou des anémies génétiques ou des anémies liées au saignement ou de chimiothérapie, est-ce qu'on peut jouer avec le métabolisme de glutamine pour mieux faire une globule rouge?
La question du stockage des globules rouges reste encore à résoudre.
On sait aujourd'hui que, par exemple, après 20 jours ou 25 jours, on ne peut plus utiliser le globule rouge pour infuser dans une patient. Donc, ça, c'est une autre chose.
Naomi Taylor, directrice de recherche INSERM, elle était jointe en France. Washington, Camille Grodidier qui vous accompagne pour Carrefour Science et Santé, un programme diffusé par la Voix de l'Amérique. Chaque année dans le monde, 50 000 à 100 000 femmes présentent une fistule obstétricale. à savoir une brèche de la filière pelvigénitale, rappelle l'Organisation mondiale de la santé. Le correspondant de La Voix de l'Amérique à Yaoundé au Cameroun, Moki Edwin Kinzeka, s'est penché sur ce problème qui est l'une des principales causes de mortalité maternelle en Afrique subsaharienne.
Maman, courage.
Ces sanglots sont ceux d'Eyanga Catherine, une jeune femme de 19 ans soignée pour une fistule obstétricale au Cameroun. L'apparition d'une fistule est liée à un travail difficile lors de l'accouchement. Ses séquelles sont terribles. Les victimes souffrent d'une incontinence permanente, en ressentent de la honte et font l'objet d'une discrimination sociale. Elles ont aussi des problèmes de santé, explique l'infirmière Abachang Est.
Il y a les femmes qui se cachent, qui ne veulent pas mettre dans leur tête qu'ils ont eu cette maladie et qui disent que c'est une malédiction. Parce qu'on a même opéré d'autres ici qui ont dit qu'il y a les médecins qui les ont découragés. Il n'y a personne au Cameroun qui peut soigner cette maladie. Donc on lui a dit d'aller attendre la mort à la maison. Elle n'a pas pu supporter, elle pleurait chaque jour.
On estime qu'en Asie et en Afrique subsaharienne, plus de 2 millions de jeunes femmes vivent avec des fistules obstétricales non traitées, précise l'Organisation mondiale de la santé. Le docteur Pierre-Marie Tebeu explique leur apparition.
Toutes les femmes au cours d'un accouchement peuvent être exposées à la fistule obstétricale, même si on sait que c'est d'abord le problème des femmes qui accouchent trop jeunes, je veux dire des adolescentes, moins de 20 ans. En général, 10 à 19 ans, comme on constate souvent dans certaines de nos maternités, constitue un facteur de risque majeur.
La fistule obstétricale peut donc être évitée en repoussant l'âge de la première grossesse, en mettant fin aux pratiques traditionnelles préjudiciables et en permettant aux femmes enceintes d'avoir accès en temps voulu à des soins obstétricaux. D'autant, souligne le docteur Tebeu, qu'on manque de médecins qualifiés pour traiter les fistules.
Ce n'est pas n'importe quel médecin qui peut s'aventurer parce qu'il est gynécologue, parce qu'il est urologue, parce qu'il est chirurgien, a dit que j'opère la fistule. Mais effectivement, votre question est pertinente dans la mesure où 73%, 75% des femmes que nous recevons ont déjà subi une tentative.
Au Cameroun, un groupe de 300 femmes opérées pour des fistules obstétricales a créé une association de soutien aux malades. On écoute la dirigeante du groupe, Oteng Julienne.
Notre but, c'est de faire connaître aux femmes que la maladie dont elles souffrent, là, qu'elles cachent, que nous avions été atteints et on était guéris. Parce que si nous aussi, on se cachait ce qu'on ne devait pas trouver la guérison, nous, on aimerait être le genre que nous avions été victimes et qu'on va se placer devant une personne qui est malade et dire que vraiment, le mal que tu as là, moi-même, j'ai fait tel nombre d'années, j'ai été opéré 8 fois, mais telle personne m'a opéré une seule fois et ça a marché. Donc, c'est un peu ça.
L'OMS rappelle que la prévention et la prise en charge des fistules obstétricales participent à l'amélioration de la santé maternelle, qui est le 5e objectif du millénaire pour le développement des Nations Unies.
Retrouvez La Voix de l'Amérique sur votre portable. Les dernières informations, nos photos et vidéos, rendez-vous sur fr.voa.mobi. Tapez fr.voa.mobi et suivez la VOA partout dans le monde avec votre mobile.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau de Sporama sur La Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil, non-stop, sur votre portable, c'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats, photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivi.